Bonsoir, vous êtes bien sur IDFM Radio. Retour de toute la culture que j'aime avec nos coups de cœur, théâtre, exposition. Restez avec nous. Ce soir, au programme du théâtre avec l'affaire Petiot. Et oui, on est en 1943. L'affaire Petiot, c'est au Moins Molière à Versailles, mardi. On va parler également, toujours théâtre, au Montparnasse avec Anciens Malades des Hôpitaux de Paris, fameux Olivier, avec Olivier Saladin. Et nous irons à 20 minutes de Paris, à la maison Caillebotte, prendre un bol d'air frais. Mais tout de suite, Charlotte Madzneff, bonsoir.
Bonsoir.
Charlotte, vous êtes comédienne, metteur en scène, adaptatrice, auteur. Vous avez 4 spectacles, si je ne me trompe pas, en ce moment à l'affiche. 4. 1 dans lequel vous jouez, 2 que vous mettez en scène et 1 que vous avez adapté. Mais moi, j'ai envie plutôt de parler de l'affaire Petiot. Vous êtes d'accord?
Oui, bien sûr.
Donc l'affaire Petiot, c'est au Moins Molière, mardi à Versailles, c'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Mardi à 15h30 dans la Grande Écurie, c'est magnifique, c'est en plein air. Hein.
À 15h30, non, c'est le soir.
C'est le soir, mardi. Pardon, 20h30.
Mardi 16 juin, oui, c'est 20h30, oui.
C'est 20h30, c'est ça, à Versailles, dans le Moins Molière. Alors, l'affaire Petiot, on est en 1943.
On est en 1944, exactement.
44, juste merci avant la Charlotte, ouais. Pour votre précision.
Juste avant la libération.
Ouais, fait divers terrible, enfin un criminel, voilà, se fait passer pour un résistant sous l'occupation allemande. Alors, c'est un médecin, vous allez nous expliquer, qui a, plutôt généreux.
En fait, c'est le docteur Petiot, qui était au-dessus de tout soupçon, hein, comme tous les tueurs en série en général, très gentil avec son entourage, etc., ses voisins, très poli. Et puis, en fait, un jour, il y a un incendie qui se déclenche dans son hôtel particulier. Et en fait, l'incendie fait que du coup les pompiers débarquent chez lui et en fait découvrent des dizaines et des dizaines de cadavres entassés dans son sous-sol. Et donc voilà, un peu comme à chaque fois, les tueurs en série se font prendre par hasard et non pas à cause d'un un meurtre qui est élucidé. Et donc en fait, ce qu'on va suivre dans cette pièce, c'est pas tellement le côté sordide de ce tueur en série, parce que vraiment le tueur en série, c'est un peu abominable, c'est-à-dire qu'il se faisait effectivement passer pour un résistant et donc il disait aux gens qui voulaient bien l'entendre dans le réseau de la résistance, aux juifs, etc., que s'ils avaient besoin de quitter la France, il se chargeait de les exfiltrer vers l'Argentine. Donc il disait aux gens, venez avec vos biens les plus précieux pour pouvoir partir en Argentine sans être inquiété et puis avoir de la liquidité sur vous. Et en fait, les gens venaient chez lui et il les tuait et gardait toutes les richesses avec lesquelles ils étaient venus, quoi. Oui. Et donc nous, on va suivre l'enquête du commissaire Massu. Le commissaire Massu, c'est celui qui a inspiré à Simenon le commissaire Maigret. Et donc on va suivre son enquête avec Borona, l'inspecteur Borona, le jeune inspecteur qui débarque et qui va regarder ce commissaire Massu faire son enquête. Et donc on a la filiation entre le vieux de la vieille et puis le petit jeune qui débarque et qui va apprendre son métier grâce au commissaire Massu.
Oui, alors j'ai quand même envie d'ajouter, c'est vrai qu'en ce moment on est dans un contexte où voilà, on n'a pas forcément envie d'aller assister encore à ce type de faits divers, mais là j'insiste. Parce que, comme vous disiez, ce qui est mis en avant, c'est le climat, c'est la mise en scène, ce sont les décors et la prestation des 6 comédiens. Donc voilà, il n'y a rien, bien évidemment.
Oui, et puis surtout, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'auteur Philippe Touzet, qui a écrit cette pièce, c'est un auteur qui fait beaucoup de pièces radiophoniques, et donc il a vraiment le sens de la réplique. Et là, il a vraiment fait des dialogues un peu à la Audiard, qui sont extrêmement drôles. C'est de l'humour évidemment un peu noir, mais par contre, c'est vrai qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on rit beaucoup pendant la pièce. Parce que c'est très drôle en fait.
C'est tourné avec dérision.
Ce sont des dialogues qui sont vraiment ciselés, qui sont percutants et qui font mouche. Et c'est vrai que on a présenté la pièce 3 fois et en fait on s'est rendu compte à quel point ça fait énormément rire quoi. C'est très drôle.
Oui, en plus Romain Lagarde dans Le Commissaire Massue est quand même trop classe.
Oui, il est formidable.
Quoi.
Ouais, ouais, ouais. Il est formidable. Il y a
alors, question, comment avez-vous eu l'idée d'ailleurs de monter finalement le docteur Peutiot, qui est peu monté en théâtre? C'est la première fois. Il y a eu un film, il y a eu des livres.
Ben, en fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein, pour être tout à fait franche. C'est l'auteur, Philippe Touzet, qui a eu l'idée d'écrire cette pièce sur cette affaire. Sur l'enquête en fait, hein, parce que c'est vraiment l'enquête qu'on suit. C'est le docteur Peutiot, on ne le voit jamais, on n'est jamais confronté à lui, on l'entend jamais, on ne le voit jamais. C'est l'ombre qui plane, mais ce qu'on va suivre, c'est vraiment l'enquête. Donc c'est vraiment un polar au théâtre. En fait, je crois que c'est la première fois que je vois un vrai polar au théâtre. C'est un vrai polar au théâtre. Et donc c'est Philippe Touzet qui a eu l'idée d'écrire cette pièce. Et en fait c'est Jean-Philippe Laguerre, donc mon mari, qui avait fait une lecture de cette pièce. Et en fait j'avais adoré la lecture de cette pièce et j'avais dit si un jour vous avez besoin de moi comme metteur en scène, moi j'adorerais monter cette pièce. Et puis le fait est que ça s'est trouvé. À un moment donné on m'a dit en fait si t'as toujours envie de la monter. Ce serait génial et du coup, j'ai été ravie de le faire.
Oui, moi, ce que j'ai aimé, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le climat dans lequel vous nous plongez, décor très réaliste. Hein, on se retrouve dans un commissariat finalement au Quai des Orfèvres en 1944.
Oui.
Voilà, on est complètement dedans. On est dedans. Et en plus, il y a beaucoup de changements il y a des changements de décor. Avec...
Oui, on change d'ambiance, on change de décor. La scénographie, elle a été imaginée par Antoine Millian. Et en fait, l'avantage de ces scénographies, c'est que elles sont très mouvantes et on peut jouer avec, on peut trouver même des choses en répétition en disant, ah tiens, mais si on faisait ça, etc. Et comme il est là avec nous, il change même en direct avec nous des choses qu'il avait même pas forcément prévues au départ. Mais c'est vrai que ces décors permettent énormément de création, de créativité, de liberté. Et donc là, on a un décor qui bouge effectivement, avec des moments qui sont assez réalistes et puis des moments un peu fantasmagoriques quand on est chez Peutiot, par exemple. Quand on imagine l'antre de Peutiot, son sous-sol, où tout à coup ça devient très abstrait. Et puis il y a la musique de Mehdi Bourayou aussi qui aide beaucoup à l'ambiance, parce qu'en fait j'ai rajouté la présence d'un guitariste qui fait de la guitare électrique et de la guitare acoustique. Et donc toute l'ambiance musicale imaginée par Mehdi Bourayou, elle nous fait aussi rentrer dans quelque chose comme ça de très énigmatique.
Oui, alors on parle peut-être des personnages, en même temps on va parler des comédiens. Combien il y a, quel est le rôle de la femme de Karine?
Karine Yachenko, elle fait 4 rôles féminins différents, tous hyper différents les uns des autres. Donc elle fait la concierge de Peutiot, elle fait aussi la voisine qui voyait un peu les allées venues du docteur Peutiot. Elle fait une amie d'une des victimes du docteur Peutiot. Et le quatrième personnage qu'elle interprète, c'est la femme du docteur Peutiot. Et donc c'est vrai que c'est super parce qu'elle arrive à camper ces 4 personnages à très peu de temps d'intervalle en plus, avec beaucoup de sincérité et à la fois c'est très campé quoi, c'est très voilà, on sait que elle a changé encore de personnage, c'est incarné.
On
voilà.
Identifie.
Ces personnages sont très incarnés et qui sont tous très différents les uns des autres.
Oui, je rappelle qu'on ne verra pas bien sûr le docteur Peutiot, hein.
Non.
Qu'on l'imagine.
On l'imagine, en fait.
Ouais. Quels sont les autres personnages? Donc, il y a Massue, hein.
Eh ben, Voilà, et puis du coup on a le commissaire Massu, alors joué par Romain Lagarde, qui ne fait que ça évidemment, parce que lui il est quasiment de toutes les scènes. On a son jeune inspecteur qui vient de rentrer à la brigade criminelle au 46 quai des Orfèvres, qui est interprété par Balthazar Gouzou. Donc lui il fait le jeune inspecteur Borona. Et puis
Bruno Gare,
donc qui est le guitariste, hein, qui fait aussi ce qu'on appelle une hirondelle, hein, c'est-à-dire un petit flic qui fait voilà, qui est dans un commissariat de quartier.
Jérôme Cachon.
Voilà, Jérôme Cachon, qui lui fait deux personnages. Il fait le pompier au départ, qui va découvrir tous les cadavres qui sont entassés les uns sur les autres dans le sous-sol de Petiot. Donc lui, il fait vraiment la découverte macabre. Et puis ensuite, il fait un officier nazi qui va un peu embêter le commissaire Massu, parce qu'on est quand même, je rappelle, sous l'occupation. On est juste avant la libération. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis au docteur Petiot, je pense, de sévir autant d'années. C'est que, bah, évidemment, comme il tuait en priorité des juifs et des résistants, personne n'allait chercher où étaient passés les juifs ou les résistants, quoi. Je veux dire, on était pendant l'occupation, donc il y avait trop de disparitions incertaines, de toute façon, pour qu'on comprenne qu'il y avait un loup par là, quoi.
Et dernier personnage, Pierre Benoît.
Et Pierre Benoît, donc, il fait... lui, il va faire un des flics qu'il y a de Villeneuve-sur-Yonne, donc qui a au tout départ enquêté sur certains meurtres dans la jeunesse du docteur Petiot. Et puis ensuite, il fait le médecin légiste, donc il essaye de comprendre qui a tué ces cadavres, enfin comment les cadavres ont été tués, et voilà, pour faire avancer l'enquête du commissaire Massu.
Oui, alors je cite les décors qui sont magnifiques, c'est Antoine Millian, les costumes c'est Corinne Rossi, et la musique, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est Mehdi Bourayou. On vous souhaite une superbe réussite.
Et la création lumière de Moïse Hill, parce que les lumières sont absolument magnifiques.
Oui, on vous souhaite une très belle réussite, puisque le spectacle Affaire Petiot commence tout juste. C'est une création créée d'ailleurs à l'espace Carpeau de Courbevoie. Oui. Et vous faites vraiment, je crois que c'est la première là, mardi.
C'est la première, c'est la toute première, on va dire, officielle. On a fait une sortie de résidence à Rueil, Malmaison, là, au Théâtre de l'Athénée, mais c'est vrai que c'est vraiment la première vraie, tout public. C'est au moins Molière le 16 juin, et puis ensuite on part à Avignon, donc au Théâtre Actuel.
Avignon avec l'affaire Petiot, et peut-être Paris, on verra.
Oui, bah on espère en tout cas.
Merci beaucoup Charlotte Matzneff. Je rappelle que vous avez effectué la mise en scène de l'affaire Petiot. On va écouter le partisan de Léonard Cohen. Merci.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les Allemands étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme.
J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis.
J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a caché, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise.
The graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
En Île-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous venons d'entendre The Partisan de Leonard Cohen, magnifique chanson. Et nous continuons donc en théâtre dans un autre registre, puisque nous abordons le registre de Daniel Pénac avec le metteur en scène Benjamin Guillard. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous allons parler de la pièce Anciens malades des hôpitaux de Paris de Daniel Pénac qui se joue au Montparnasse jusqu'au 25 juin, hein, vous nous préciserez les dates.
26 juin.
Avec le fameux Olivier Saladin qui est quand même très classe. Olivier Saladin, on l'a vu dans Art, là, il y a pas longtemps, Olivier Saladin, c'est aussi les des chiens, hein, Canal+, dans les années 90-2000. Alors, Ancien malade des hôpitaux de Paris, c'est un seul en scène.
Oui.
Beaucoup d'humour. C'est l'histoire d'un interne hein, qui rêve d'un poste magnifique, fantastique. Il est une nuit, il est en poste aux urgences et sa garde, mais alors devient un fiasco, un cauchemar. C'est très spécial face à un malade vraiment pour le moins déroutant qui a une multitude de symptômes atypiques. Alors vraiment les symptômes, bref, crise d'épilepsie, occlusion, vomissement, étouffement, et j'en passe. Et donc cette nuit-là, ce fameux interne qui s'appelle le docteur Galvan, il va trouver la foi, il va la perdre jusqu'à perdre les pédales. C'est vraiment du Daniel Pénac burlesque qu'on peut prendre aussi au second degré, qui veut nous dire quelque chose. Que veut nous dire cette pièce justement, Benjamin, sur le monde médical?
Je crois qu'elle veut nous raconter. D'abord, c'est un jeune interne effectivement très ambitieux qui rêve d'avoir son nom sur une carte de visite avec toutes ses spécialités, et il va découvrir une forme d'empathie finalement au cours de cette nuit. Il va découvrir que ce qu'il imaginait être son métier va se transformer en des choses, voilà, la découverte de l'empathie, la découverte de la médecine au sens le plus pur du terme, je crois, en étant confronté effectivement à ce patient qui va commencer à multiplier des symptômes tous plus fous les uns que les autres, et lui il va être confronté à cette recherche de maladie, essayer de comprendre ce qui arrive à ce patient au cours de cette nuit un peu totalement improbable, quoi.
Ouais.
Est-ce qu'on ça nous parle de la nature humaine, oui. Ça nous parle de l'ambition, ça nous parle de la médecine aussi, de la recherche. C'est un thriller médical un peu aussi. Il y a un côté un peu, on a envie de savoir qui est ce patient et qu'est-ce qui lui arrive, quoi.
Oui,
et comment il va pouvoir se sortir de tout ça.
Ouais, il y a un peu du suspense, on se demande ce qu'il fabrique.
Oui.
Ouais. Est-ce qu'on sait pour comment Daniel Penac a écrit, dans quelles conditions a écrit ce petit texte, hein, finalement, qui est un petit roman, hein, de 60 pages.
Ouais, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle. Je sais pas, je crois que c'était une commande des hôpitaux de Paris, mais je suis pas exactement, je suis pas certain de tout ça. Mais en tout cas, c'était un court texte, qui n'était pas spécifiquement écrit pour le théâtre, c'était vraiment une nouvelle. Et en même temps, c'est une écriture qui finalement est assez très théâtrale, quoi.
Donc,
on a adapté un petit peu ce texte, mais en vrai, c'était presque écrit pour le théâtre. Donc, c'est ça qui était intéressant.
Ouais. Le spectacle a été créé il y a 12 ans, hein, je le rappelle, avait rapporté un beau succès puisqu'il a été nominé pour les Molières en 2016.
Tout à fait, ouais. En catégorie seule en scène. Ouais.
Ouais. Et donc déjà, créé déjà à l'origine avec Olivier Saladin. Mmh. Je ne l'ai pas vu, moi, la création il y a 10 ans. Est-ce qu'il a la même aisance?
Ah oui.
10 ans
oui,
après.
Oui, il a la même énergie. Ah oui, ça, tout à fait. Oui, il a une énergie débordante. Et, non, il est absolument formidable. Non, puis c'est ce qui est intéressant, c'est de redécouvrir justement ce. On a retravaillé un petit peu. Ça s'est beaucoup joué il y a 10 ans. On l'avait créé au théâtre en région et ensuite au théâtre de l'Atelier à Paris. Et il a fait une grosse tournée après. Et puis ce spectacle a eu cette fin de vie comme ça. Et puis finalement, le directeur du théâtre Montparnasse nous a proposé de le reprendre cette année. Donc on a replongé dans cette aventure et c'était avec un certain plaisir, je dois dire.
Il n'y a pas eu de changement notoire.
Un petit peu, des petites choses, mais c'est très à la marge. Des petites choses de musique, des petites choses de lumière, un petit peu qu'on a un peu réadapté, voilà, mais dans l'ensemble, c'est très proche de ce qu'on a fait il y a 10 ans.
Ouais, alors vous faites ressortir vraiment avec brio, cette course poursuite, hein. Alors, burlesque du docteur Galvan et du corps médical, il est seul en scène, hein.
Même moi, je me dis, mais c'est une multitude de personnages.
C'est ça qui est fou.
Il joue tous les personnages, tous les patients, des buts, et puis surtout tout le corps médical qui va se presser autour de ce patient-là. Donc oui, il joue tous ces médecins, tous plus ambitieux les uns que les autres. Voilà, donc il a beaucoup de plaisir à incarner tous ces personnages-là, effectivement.
Ouais, c'est ce que
c'est sous-titré par Daniel Penac, monologue gesticulatoire. Donc dire que c'est tout un programme et Saladin se glisse là-dedans avec brio.
Oui, parce qu'on voit quand même tous ces personnages. Et alors ça, je me dis, mais comment faites-vous pour faire... est-ce que ça vient de l'interprétation du comédien, de la mise en scène? Parce que, ouais, on voit cette cardiologue un peu snob, on voit cet employé, là, pas très pressé de savoir où est passé le malade, on voit le directeur le responsable de la morgue sarcastique, c'est fou. Et il ne change pas spécialement de costume.
Ah non, pas du tout. Donc. Non, il change de voix, par contre. Il change de voix, il change de gestuelle, il change de posture. La lumière aussi aide un peu à créer des espaces, créer des ambiances. Mais tout part de l'acteur, effectivement, avec un changement de voix, des places, des choses. C'est assez millimétré, quand même. Et pour arriver à ça, on travaille, on essaye des choses, on essaye des voix, par exemple, on s'amuse en répétition à essayer des voix, on voit ce qui colle le mieux, ce qui tient le mieux la longueur, et on cherche, on essaye, et puis quand on a trouvé, on essaye d'approfondir tout ça, ouais.
Oui, et puis alors en plus les dialogues, le texte de Daniel Penac, qui a quand même parfois qui j'ai noté quelques répliques pertinentes, hein, voilà, ce directeur de morgue, j'ai cru que c'était vous le mort.
Oui.
C'est ça.
Quand il a au téléphone. Quand le docteur appelle la morgue justement pour savoir si le patient y est, parce qu'il l'a perdu dans les couloirs de l'hôpital, donc il appelle la morgue et effectivement une petite incompréhension en pensant que monsieur de la morgue pense qu'il parle du médecin. Donc,
voilà. Il faut attendre ce week-end pour remplir les frigos. Bon voilà, des petites phrases comme ça, la description du prout là,
oui.
Sur le malade, vous voyez, avec le hautbois, la flûte.
Oui, mais c'est très. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est à la fois des choses évidemment très triviales et en même temps dans une langue très écrite, quoi. Donc c'est ça qui est. Il y a un décalage qui est assez agréable à entendre et à jouer parce qu'on parle de choses effectivement du corps, du vomi, de choses effectivement de paix et en même temps tout ça dans une langue très écrite, quoi. Donc ça mène un décalage qui est assez poétique et assez drôle.
Oui, mais on voit quand même que ce docteur, bon, on va pas tout révéler, bien évidemment, mais il se remet aussi en question, quand même.
Ah bah oui, tout d'un coup, le fait d'être face à ce patient, ça, effectivement, il se pose la question de lui, son engagement dans ce métier, de ce qu'il veut, il est confronté à la nature humaine, donc pour dans le bon sens à certains moments, et puis dans un très mauvais sens à la fin, effectivement, on va pas révéler, mais bien sûr, il est confronté à. Il est confronté à ça, il va faire tout un chemin dans sa tête jusqu'à arriver à quelque chose que je ne dévoilerai pas, mais bien sûr.
Oui.
L'histoire de sa vie.
Est-ce que, alors je sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de médecins dans la salle.
Il y a toujours des médecins, c'est sûr. D'ailleurs, on peut un peu les reconnaître parce qu'il y a vraiment des choses, il y a des rires, on se dit, ah, c'est forcément le rire de quelqu'un qui connaît un peu le milieu médical. Parce que, notamment à un moment, on parle de l'opisthotonos. Terme que je ne connaissais pas, je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et quand on entend ce terme pour la première fois, il y a quelques rires, je dis, ah, ça c'est forcément plus ou moins des gens du corps médical. Pistotonos étant la phase terminale du tétanos. Donc, voilà, quand on ne sait pas, on ne peut pas l'inventer.
Ouais, parce que ce fameux médecin dont on parle, il cherche, il voit ce patient arriver avec toutes les pathologies possibles, comme je le disais au début, et du coup, on se dit, bah, les médecins doivent, voilà. Doivent se reconnaître dans cette quête.
Oui, et puis dans leur rapport entre eux aussi, il y a tout, dans les hiérarchies des différents médecins, tout ça, dans leur rapport, oui, forcément, ils se reconnaissent un peu.
Voilà, donc c'est ancien malade des hôpitaux de Paris à Montparnasse, seul en scène humoristique, hein, sur une histoire un peu loufoque d'un patient aux urgences. Quels sont vos projets, Benjamin? Vous êtes on rappelle en deux mots votre carrière, hein, trois Molières, hein, quand même. Hein.
Trois Molières avec des scènes en scène, effectivement. J'ai eu la chance de mettre en scène plusieurs scènes en scène dans des genres très différents, mais oui, j'ai eu beaucoup de bonheur à faire ça. Là, mes projets, je vais travailler avec un chanteur qui s'appelle Renan Luce, qui a fêté les 20 ans de son premier album, et je vais travailler avec lui à la mise en scène de son concert des 20 ans de cet album-là. Ce sera à la rentrée et à la Cigale en décembre, je crois.
D'accord, ah oui, donc Renan Luce, on le connaît très très bien à la radio, hein. Radio IDFM. Juste pour nos auditeurs, je rappelle, hein, vos les spectacles, quelques-uns, parce que vous en avez mis beaucoup en scène, moi et Mitterrand, François Mitterrand 2016 au rond-point, Vous n'aurez pas ma haine 2017, Réparer les vivants 2017, La fin du monde est pour dimanche, etc., etc. On peut pas tout citer. Et également, bien évidemment, vous êtes acteur, comédien, vous avez fait beaucoup de télé, voilà.
Oui, j'ai plusieurs casquettes, effectivement.
Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir pris le temps, parce que je suppose que vous êtes bien, bien occupé, bien pris. On cite l'équipe du spectacle.
Oui.
Ancien malade des hôpitaux de Paris au Montparnasse, la mise en scène de vous, hein, Benjamin Gaillard, avec Olivier Saladin, et peut-être on va citer aux Lumières.
Bien sûr, Emmanuel Filippo Vialard.
Et Sylvain.
Et Sylvain Chevalot, bien sûr, Sylvain Chevalot.
Les décors.
Les décors ne sont pas crédités, il n'y a pas eu de scénographie.
D'accord, ok.
Il y a une scénographie, mais ça c'est
en tout cas, ils sont très beaux.
Il n'y a pas de scénographie.
Ils sont très beaux avec cette table roulante, ces chaises dont on est dans la salle d'attente. Et oui. Derrière, on a cette paroi froide de l'hôpital.
Exactement.
Très bien. Merci beaucoup. On
Merci
écoute tout de suite Martin Coriton, Il dansait sur les nuages. Merci.
Sérieux entre eux, ils voyaient avec les mêmes yeux. sa tournée au fiasco.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Restez avec nous. Nous venons d'entendre Il dansait sur les nuages de Martin Coryton. Et tout de suite, je reçois Valérie Dupont-Aignan. Bonsoir.
Bonsoir madame.
Ouais, nous allons à 20 minutes de Paris, dans l'Essonne, à Hyères, pour parler de la maison Caillebotte, véritable havre de paix, lieu de la famille du peintre Caillebotte, Gustave Caillebotte. Vous allez nous expliquer tout ça, Valérie Dupont-Aignan. Vous dirigez, vous êtes directrice de la maison Caillebotte et commissaire également des expositions qu'il y a là-bas, puisqu'il peut y avoir des expositions temporaires. Donc c'est un lieu, un véritable joyau du patrimoine impressionniste. On peut y voir alors des expositions, mais également découvrir la maison familiale du célèbre peintre Gustave, puisque sa famille y a vécu pendant 20 ans, enfin de 1860 à 1879.
Et oui, absolument.
C'est ici qu'il a découvert son amour pour la peinture. Voilà, donc cette maison permet d'en découvrir un peu plus. Expliquez-nous, Madame Dupont-Aignan, que peut-on découvrir finalement dans cette demeure, dans cette vaste propriété?
Alors, cette maison, elle a appartenu à des propriétaires assez prestigieux, toujours très originaux. Le premier qui lui a donné son acception actuelle, c'est Pierre-Frédéric Borel, c'était un restaurateur parisien qui avait le Rocher de Cancale. C'était l'équivalent de la Tour d'Argent au début du 19e siècle. Et ensuite, elle est passée à la veuve Biennet, qui était quand même la veuve de l'orfèvre de Napoléon Ier, et qui a laissé aussi un mobilier assez imposant. Et le père de Gustave Caillebotte a acheté cette maison en 1860, et pendant 19 ans, la famille est recomposée avec tous les membres de la famille du père qui avait perdu ses deux premières épouses en couche et la famille de sa troisième épouse avec tous ses fils venaient se retrouver là pour les vacances intermédiaires. Et on a voulu restituer cette ambiance, rendant hommage à tous les membres de la famille. Et bien évidemment à Gustave Caillebotte, parce que c'est là qu'il a appris à regarder dans ce parc paysager. C'est un parc qui a été construit comme un voyage autour du monde et un voyage dans le temps aussi. On peut retrouver des petites fabriques d'ornementation qui ponctuent toute la promenade. Et puis la rivière aussi, qui est très importante et qui donnera aussi beaucoup d'idées aux jeunes Gustave. Déjà de canotage et de joie de sport nautique, mais aussi pour sa peinture et les reflets notamment qu'elle permet d'observer. Et puis à l'intérieur de la maison, on a plusieurs salles de présentation de la vie qui était la vie de cette famille à la moitié du 19e siècle. C'est une famille bourgeoise qui est assez nantie. Le père a lui-même une entreprise de filature en Seine-et-Marne et il a choisi de venir ailleurs d'abord pour la belle propriété qui l'a séduit, mais aussi parce qu'elle est à mi-chemin entre Paris où il réside pendant la semaine et puis la Seine-et-Marne où il va voir ses ouvriers, sa filature. Donc chaque membre de la famille a aussi une salle qui lui est dédiée, le prêtre Alfred, qui était le fils aîné, le demi-frère de Gustave Caillebotte, qui avait lui aussi une vie assez particulière. Il était l'autorité morale de la famille, bien sûr, mais il a été aumônier de Saint-Georges-de-la-Villette à Paris, de Notre-Dame-de-Lorette. Il a réalisé beaucoup de choses pour les défavorisés. Donc c'était important que son père lui reconstruise une petite chapelle dans le parc. Et puis les autres frères aussi, Martial, le jeune frère de Gustave, avec qui il restera très très lié, et qui a participé à une collection de timbres importante, à une collection de photos aussi, parce qu'il a photographié beaucoup de ses voyages, de ses déplacements, et puis il a réalisé une espèce de catalogue raisonné photographique des œuvres de son frère, Gustave. Hein, c'était le début de la photographie, et ces jeunes qui avaient les moyens de le faire, mais aussi qui s'intéressaient à tout ce qui était moderne et à la portée de leurs mains, et c'était bien sûr intéressé à ce nouveau médium. Et puis on a la chambre à coucher qui est assez spectaculaire puisque c'est du mobilier de Biédet, la veuve de Martin Guillaume Biédet, donc la propriétaire avant les Caillebotte, avait fait revenir ce mobilier très prestigieux parce qu'il était destiné à la famille Murat à Naples, mais Murat avait été fusillé, donc il n'avait pas honoré sa commande. Enfin, tout ça fait que les Caillebotte ont vécu dans ce mobilier-là, puisque c'était vendu en l'état. Et puis, on découvre aussi l'atelier du peintre, parce que Gustave peignait à l'extérieur, il peignait en plein air, et c'était d'ailleurs pas très très facile non plus de peindre en plein air pour lui, mais il l'exprimait comme ça à Monet. Et il peignait aussi en atelier par sa formation assez classique qu'il avait reçue de Léon Bonnat.
Oui, voilà. Oui, vous nous parliez justement de l'histoire, hein, de cette famille Gustave Gustave Caillebotte dans cette maison. J'ai une question parce que finalement Gustave Caillebotte, il a été connu, enfin reconnu, disons célèbre assez tard, hein, finalement, hein, dans les années 1980. Finalement, est-ce qu'il n'était pas plus connu comme mécène, comme parce que il organisait des expositions. Alors c'est paradoxal parce qu'il a légué, il avait beaucoup d'œuvres d'impressionnistes, de peintres. Oui. Il organisait des expositions, il a légué sa collection à l'État et il a été connu, reconnu comme je viens de le dire assez tard.
Comment... Alors Gustave Caillebotte, il a été séduit par la nouvelle peinture qu'il a découverte avec la première exposition impressionniste qui était organisée chez Nadar, hein, en 1874, avec justement le tableau Impression Soleil Levant de Monet. Et il a tout de suite compris que c'était ça qu'il voulait faire en peinture, parce qu'il avait déjà commencé à peindre, mais il voulait rendre cette sensation et être complètement dans ce mouvement. Il venait de perdre son père lui-même. Il a acquis des œuvres de ses artistes parce qu'il a voulu les soutenir très vite. Il a compris qu'il fallait être dans un nouveau mouvement.
Oui, Monet, de Renoir, de Degas. Enfin, je veux dire.
Degas, il a une collection particulière très très prestigieuse puisqu'il a. Il a légué ensuite à l'État. Et puis, il se trouve qu'il a réalisé de très grands formats pour chaque exposition impressionniste. Et il les a organisés à partir de la troisième exposition. Il a participé à leur organisation. Il s'est beaucoup investi. Il a changé ses thématiques. Il a évolué vraiment de manière assez prodigieuse. Mais c'était pas le moment, c'était pas pour le bon moment. Paul Durand-Ruel a ensuite présenté tous ces artistes-là aux États-Unis. Mais Caillebotte en a bénéficié. C'était la fin de sa vie finalement, enfin la fin de sa courte vie parce qu'il est mort à 45 ans. Et il a pu avoir des tableaux qui ont été montrés aux États-Unis, mais surtout après sa mort, puisqu'il est mort de manière prématurée, bêtement à 45 ans. Et à 45 ans, donc en 1894, Monet commence à être déjà bien connu, et Caillebotte meurt, voilà. Donc, si vous voulez, par rapport aux impressionnistes et au groupe lui-même, il n'a pas été reconnu à sa juste valeur, et... on a presque 100 ans de notoriété, si je puis dire, à faire rattraper à cet artiste. Mais à la dernière exposition qu'il a eue au Musée d'Orsay l'année dernière et qui a voyagé aussi aux États-Unis, était quand même prodigieuse. Et là, je crois que le public a redécouvert, s'il le fallait, que c'était un artiste vraiment exceptionnel et très, très novateur et qui était toujours en avance sur son temps. C'était un peu sa spécificité à Caillebotte. Il avait vraiment un regard toujours plus rapide que les autres.
Oui, célèbre. Et aujourd'hui, bien évidemment, Gustave Caillebotte est un peintre célèbre, présent dans plusieurs musées nationaux. Vous en parliez tout à l'heure, Orsay. Madame Dupoignan, on va faire une pause musicale et après, on vous reprend tout de suite. Vous restez avec nous. On va passer After the Love Has Gone de Earth, Wind and Fire et on vous reprend tout de suite.
For a while, to love was all we could do. We were young and we knew in our eyes we're alive. Deep inside we knew our love was true. For a while we paid no mind to the past. We knew love would last every night. Something right would invite us to begin the day. Something happened along the way. We used to be happy with sand. Something happened along the way. Yesterday was all we had. Never knew that what was wrong, oh baby, wasn't right. We tried to find what we had till the sadness was all we shared. We were scared this affair would lead our love into something. Sad. Something.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio, 98 FM.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous venons d'entendre Earth, Wind and Fire, After the Love Has Gone. Et nous retournons à 20 minutes de Paris, à la maison Caillebotte, pour parler de ce formidable endroit du patrimoine. Vraiment, chers auditeurs, je vous le conseille pour un week-end ou même en semaine, hein, d'aller visiter la maison Caillebotte. Et pour continuer à en parler, je suis toujours avec Valérie Dupont-Aignan, la directrice. Valérie, on parlait donc de toute la maison, hein, de tout ce que l'on peut voir, le mobilier, les pièces. On peut mieux connaître bien évidemment la vie de Gustave Caillebotte et de sa famille. Il y a notamment cette pièce où on parle de sa passion pour le naval, pour la navigation.
Oui, alors Caillebotte s'intéressait à tout, comme je vous l'ai dit, et de manière très très fouillée. C'est-à-dire que quand il a découvert les joies nautiques sur la petite rivière de Lierre, il était dans des périssoirs, des petits canots assez étroits. Et puis finalement, quand il a vendu cette maison et qu'il est allé s'installer au Petit Gennevilliers, et il avait en parallèle découvert avec son ami Sisley le yachting, il a fait construire aussi ses propres voiliers, avec une voilure plus importante et une quille plus profonde. Et son père avait accès à des toiles et des tissus légers, donc ses voilures étaient plus légères en termes de qualité, mais elles étaient plus importantes pour aller plus vite. Et comme ça, il a fait gagner ses voiliers, il participait à des régates, il a créé son propre chantier naval. Et il est devenu lui-même directeur du cercle de voile de Paris, qui était installé là-bas. Donc cette passion, il l'a vécue jusqu'au bout. C'est-à-dire de la construction du voilier aux régates. Il aimait beaucoup gagner. C'était quelqu'un qui aimait les défis. Et je pense que ça a joué aussi dans sa manière de voir les choses.
Oui, alors parmi ces célèbres tableaux, hein, les célèbres œuvres de Gustave Caillebotte, hein, je pense que nous connaissons Rue de Paris, Temps de pluie, Les raboteurs, et il y a également bien sûr des tableaux sur le côté naval, hein, les chantiers navals. Valérie Dupont-Aignan, alors on a parlé de la demeure, formidable, mais il faut pas oublier qu'il y a un immense parc qui est majestueux de 11 hectares avec des arbres extraordinaires. Je pense notamment à ce platane pleureur, hein, qui protégeait les militaires en un temps. Il y a une volière, il y a un chalet suisse dû oui. au père de Gustave Caillebotte d'ailleurs. Il y a un lavoir, un potager et deux bâtiments où on peut voir des expositions temporaires. Alors, que peut-on voir en ce moment ?
Alors, en ce moment, on a dans la ferme Ornée, qui était la ferme, en fait, les écuries du domaine. Bien sûr qu'on a remis aux normes muséales grâce à l'expertise du musée d'Orsay et de divers sociétés. Donc, on a une exposition qui s'appelle « La nature n'est pas un décor » de Claude Monet à 8 artistes contemporains qui sont pas des moindres. On a Jacques Truffémus, Marcus Lupers, Éric Desmazières, Malgorzata Pasco, Evie Keller, Ronan Barrault, Charlotte de Maupoux et Youssef Korifi. Donc c'est 8 artistes contemporains qui travaillent aussi sur le paysage. J'ai voulu les confronter à Monet à l'occasion du centenaire de la mort du fondateur de l'impressionnisme pour voir s'il y avait un lien entre ces deux blockbusters, entre Monet et puis ces artistes qui étaient venus après, et voir comment on pouvait peindre après Monet. Et je dois dire que le pari est assez réussi parce que on voit un lien évident qui se fait entre Monet, mais le Monet qui est plutôt le Monet de la fin, c'est-à-dire le Monet qui ouvre la voie à l'art moderne, à l'abstraction. Et puis ces artistes qui l'ont connu, en tout cas qui l'ont connu, enfin qui ont connu son travail bien sûr, et qui ont utilisé souvent la liberté qu'avait offerte Monet, et puis qui s'en sont emparés chacun à leur manière. Donc ça c'est vraiment à voir. C'est une très belle exposition de grands peintres, beaucoup de peintures et un festin de peintures sur la nature. Tous les éléments, c'est assez joyeux.
Oui, en lien avec Monet. D'ailleurs, je précise qu'on peut voir deux Claude Monet.
Oui, bien sûr.
Deux tableaux.
Voilà, on a Claude Monet autour de son jardin d'eau et de feu, comme on le disait, c'est-à-dire autour du bassin des nymphéas et du saule pleureur, deux voies différentes ouvertes vers l'abstraction,
très
par
bien.
La dissolution des motifs ou par la gestuelle aussi,
oui, magnifique.
Reprise. Et puis ces artistes aussi qui suivent. Donc c'est une exposition qui dure jusqu'au 18 octobre.
Oui, d'accord. Et donc on a nos auditeurs ont le temps. Très bien. Et l'autre exposition, donc dans un lieu un petit peu plus, on continue dans le parc, un tout petit peu plus bas, de Dominique Ranson, qui était une proche de grands couturiers comme Yves Saint Laurent, qui est photographe, modèle. Et je trouve cette exposition très intéressante. Ce sont des photos sur le visage finalement, hein, une approche du visage sur le regard. Elle aime bien dire qu'il n'y a rien de plus beau qu'un visage. Voilà. Et elle était amie de Ken, hein, c'est ça, de Paul Ardenne, de Richard. Enfin bon, voilà. Elle a côtoyé, je suppose, l'univers de la mode.
Exactement. Donc dans l'orangerie qui est aussi en accès libre dans le parc, l'orangerie c'est en accès gratuit pour le public. C'est une des fabriques du parc d'ailleurs. On accueille maintenant des expositions. Cette année c'est Dominique Ranson. L'exposition s'appelle Artiste et modèle au pluriel parce que Dominique Ranson travaille sur le visage et sur le corps. Vraiment frontale, de manière très frontale, et elle aime travailler par série, et elle commence toutes ses séries par un autoportrait. Donc on a choisi, moi j'ai voulu choisir les séries majeures de l'artiste, qui a une carrière derrière elle déjà formidable, très nourrie, et de choisir, parce que l'orangerie c'est pas un bâtiment non plus très très grand, mais ça permet de voir comment l'artiste teste ses séries vis-à-vis des autres modèles qu'elle va pouvoir portraiturer, et puis ça lui permet aussi de voir si la série sera valable, en tout cas pour elle, ou pas. Et donc on a ce cheminement d'une artiste. Alors c'est pas de la photo, hein, c'est de la peinture. Elle est photographe aussi, elle prend beaucoup de photos dans la préparation de son travail, mais elle a une manière de peindre les chairs de manière très très réaliste et jusqu'au-delà. Elle n'est pas forcément tendre avec ses modèles, mais le rendu est assez spectaculaire puisque elle travaille, elle a évolué au fil du temps, elle travaille presque plus ses fonds. C'est-à-dire qu'il fait des fonds neutres. Au contraire, ils sont très travaillés, mais ils sont neutres. Et la personne et la personnalité émergent complètement des toiles, justement parce que comme les icônes, on ne voit qu'elles.
Très bien.
Et ça, c'est aussi très, très intéressant, avec des personnages pas forcément... qui n'ont pas forcément des vies faciles, et voilà, donc elle choisit ce modèle.
On voit justement tout le vécu et la souffrance des personnages qu'elle peint. Merci beaucoup, c'est passionnant. Merci beaucoup Valérie Dupont-Aignan. Je rappelle donc que la maison Caillebotte est à Hyères, Y2RE, dans l'Essonne. La maison est ouverte du mardi au dimanche, hein, et jours fériés, de 14h à 18h30. Le parc, quant à lui, est ouvert de 9h à 21h. Le parc est gratuit et l'entrée de la maison est à 12€. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps, hein, Valérie Dupont-Aignan.
Merci à vous.
Et on écoute tout de suite Gilbert Bécaud, et maintenant. Merci.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire?
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous venons d'entendre Gilbert Bécaud et maintenant l'émission touche à sa fin. Mais avant cela, je voudrais vous faire part de mes coups de cœur. C'est à Enghien, au CDA. Vous avez le festival Hublot. C'est du 25 au 27 juin. Vous avez un peu le temps. C'est un nouvel événement qui est consacré aux grandes transformations de notre époque. C'est formidable. L'essor des technologies, notamment l'IA, dont on parle tellement, et leurs effets sur le vivant et son avenir. Ça s'appelle donc le festival Hublot. Il y a de la danse, de la musique, des temps d'échange, des tables rondes, et c'est en partenariat avec l'IRCAM, avec l'Université de Paris 8, et c'est gratuit. Réservez bien vos places, donc du 25 au 27 juin. Autre coup de cœur, un film, c'est dimanche à 16h, toujours au CDA, c'est ce dimanche 14, magnifique film de 2 heures de John Huston, L'homme qui voulut être roi. C'est un film américain de 1975 avec Sean Connery. Et c'est deux anciens soldats britanniques qui décident de devenir roi au Kafristan, une terre où aucun homme blanc n'a mis les pieds depuis Alexandre le Grand. Je vous recommande absolument ce chef-d'œuvre dimanche à 16h. Et bien voilà, l'émission est terminée. Vendredi prochain, le 19, vous retrouverez Marie-Laure avec son programme décapant. Et merci beaucoup à Erwan aux manettes et à la régie.